Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous étudions l'évangile de Luc. Nous avons cependant eu quelques interruptions à travers la période de Noël. Et avant cela, j'ai interrompu notre étude de l'évangile de Luc, ou plutôt mon but était l'espoir d'avoir amélioré notre étude de l'évangile de Luc, avec une série sur la délivrance. Cette série a largement été écoutée, et continuera de l'être, et je suis très reconnaissant pour cela. Il y a un élément de cette série que j'ai réellement omis. J'aimerais donc aborder cela ce matin, et le matin du prochain jour du Seigneur, et ensuite nous retournerons à notre étude de Luc. Quand on expose la Bible comme je le fais, on prend un livre, on y passe un long moment. Il émerge des questions qui nécessitent d'être traitées, et ceci fait qu'on a besoin de dévier de la voie principale de temps en temps pour traiter de cette question, car il s'agit d'un sujet très très pertinent. On s'attendrait à ce que tout le monde, au sein du christianisme évangélique, tous ceux qui sont véritablement chrétiens, comprennent que l'Évangile constitue le cœur du christianisme, et que l'Évangile ne se trouve que dans l'Écriture, et que l'Évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai grandi avec cette compréhension. Mon éducation théologique l'affirmait. Mes années d'études de la Bible ont scellé cette déclaration. Le cœur de la foi chrétienne est l'Évangile. L'Évangile se trouve dans le Nouveau Testament. Les fondations de l'Évangile se trouvent dans l'Ancien Testament. Et l'Évangile doit être prêché jusqu'aux confins de la terre, pour que les gens parviennent au salut. C'est essentiellement cela la mission chrétienne. C'est ce que l'Église a cru. Cela constituait une contrainte pour sa vie. C'est ce qui a été son mandat. Jésus a dit « Allez à travers le monde et faites des disciples les baptisant en mon nom, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. » Il l'a dit d'une autre manière. Il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est le mandat de l'Église. Les véritables chrétiens y ont toujours cru. La véritable Église l'a toujours enseigné. Nous avons cru et avons été interpellés par le fait que les gens ne peuvent pas être sauvés s'ils n'entendent pas l'Évangile. Et s'ils ne sont pas sauvés, alors ils passeront l'éternité en enfer sous le jugement de Dieu. Il est donc tout à fait crucial que le monde entende l'Évangile de Jésus-Christ, qu'il ne se contente pas de l'entendre, mais qu'il le comprenne de manière précise, qu'ils y croient et qu'ils l'embrassent pour eux-mêmes, parce qu'il s'agit de l'unique vérité qui soit habilitée à sauver. Contraints par ce mandat biblique clair, les chrétiens, au cours des siècles, ont porté le message salvateur jusqu'aux confins de la terre, génération après génération. Ils se sont dévoués à le faire. Prêcher l'Évangile à toute personne sur la face de la terre a été le but de l'Église. Je vous ai dit à plusieurs reprises que c'est l'unique raison pour laquelle nous sommes encore là. Nous sommes déjà sauvés et scellés pour l'éternité. Il n'y a pas de raison de nous laisser ici, si ce n'est à cause de cette responsabilité de l'évangélisation. À présent, nous croyons que la Bible dit clairement que le salut vient à travers la foi en Christ. Croire en Christ découle du fait d'entendre et de comprendre l'Évangile. Être capable d'entendre et de comprendre l'Évangile ne peut se produire que si quelqu'un porte le message. Et quelqu'un ne peut porter le message que s'il est envoyé avec ce message. Et c'est ce que dit Romains 10. Vous êtes sauvés en croyant en Christ. Mais vous ne pouvez pas croire en Christ, à moins d'entendre parler du Christ. Vous ne pouvez entendre au sujet du Christ, à moins que quelqu'un ne prêche. Et quelqu'un ne va prêcher que s'il est envoyé. Et c'est cela notre mandat. Ça a été la mission de l'Église depuis sa naissance, le jour de la Pentecôte. Et Jésus a dit, « Et vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Depuis que l'Église a été lancée, et jusqu'aujourd'hui, un nombre incomptable de millions, dans toutes les devises qui existent sur la carte du monde, et des millions d'heures, d'efforts et de travail, et des millions de chrétiens, ont été dépensés et sacrifiés pour porter l'unique message de salut aux confins de la terre. Le travail de traduction, un travail rigoureux, difficile, plein de défis, qui consiste à prendre une langue qui n'est pas écrite et à développer un alphabet, et développer une manière d'écrire cette langue, et ensuite enseigner aux gens à lire leur propre langue, alors qu'ils ne l'ont même encore jamais vue. Ensuite, mettre à leur disposition les Écritures et l'Évangile, et les conduire à Christ. Un travail fastidieux, qui nécessite des décennies. Et ensuite imprimer du matériel de lecture dans chaque langue. Prêcher, enseigner, évangéliser. C'est ce à quoi l'Église s'est employée depuis son appel, depuis l'arrivée du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Des efforts incessants à utiliser chaque moyen disponible pour toucher les peuples avec le seul message capable de les sauver du jugement éternel. Et il s'agit du message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et nous voici à présent au début du nouveau millénaire. Il s'agit du début officiel, l'an 2001. Et au début de ce nouveau millénaire, nous avons de plus grands moyens de porter l'Évangile aux confins de la terre que nous n'en avons jamais encore eu. La technologie, une sophistication dans l'application de cette technologie à tous les moyens de communication imaginables, nous a donné plus de possibilités aujourd'hui que jamais de porter l'Évangile aux extrémités de la terre. Et n'est-ce pas étonnant qu'à ce moment précis, l'ennemi des âmes humaines, l'ennemi de Dieu, l'ennemi juré de Dieu, Satan en personne, ait intensifié ses efforts pour l'empêcher. Il l'a fait de deux façons intéressantes. L'une consiste à embrouiller l'Église sur la définition de l'Évangile, et au cours d'un peu plus que les 15 dernières années, cela a été le combat que j'ai livré, avec d'autres, afin d'essayer de m'assurer que les chrétiens comprennent ce qu'est l'Évangile. Cela ne sert à rien d'avoir la technologie, ça ne sert à rien d'avoir l'opportunité, c'est futile d'avoir les moyens financiers et d'avoir la main-d'œuvre nécessaire pour porter l'Évangile aux extrémités de la terre. Tout cela est complètement inutile si on ne sait pas ce qu'est le message. Et il s'agit donc très certainement d'une très bonne stratégie de l'ennemi de l'âme humaine que d'embrouiller l'Église au sujet du message. Ainsi, avec d'autres personnes, je me suis dévoué à l'écriture des livres pour tenter de clarifier les choses pour les chrétiens, ce qu'est l'Évangile, parce que l'Église est devenue confuse au sujet de l'Évangile. Ils ne sont pas vraiment certains si Jésus est Seigneur ou pas, s'il a besoin d'être Seigneur ou pas. Il ne semble pas important pour l'Église que les gens comprennent la véritable doctrine biblique de la justification par la foi, et uniquement par la foi, uniquement par la grâce, en Christ seul. Cela ne semble pas important pour certaines personnes qu'il y ait la repentance du péché et que nous prêchions la repentance. En fait, certains pensent qu'il s'agit d'une certaine forme d'intrusion dans la grâce. On ne comprend donc pas la doctrine de la substitution et de l'imputation, c'est-à-dire la véritable compréhension que nos péchés sont entièrement imputés à un substitut qui est mort à notre place, et que nous ne contribuons en rien à notre salut, en dehors de la foi que nous plaçons en ce substitut. Nous voici donc, nous, Église évangélique, dans la confusion au sujet du message. Et vous entendez, comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, un pasteur d'une très grande Église évangélique affirmer quelque chose comme « L'importance de la réforme a quelque peu été exagérée. Eh bien, ce que la réforme a fait, c'était de définir l'Évangile. Non seulement, nous ne savons pas ce qu'est l'Évangile, pour un bon nombre d'entre nous, mais nous ne sommes même pas certains qu'il soit important de le définir correctement. C'est une chose tragique. Nous voici à deux doigts du plus grand potentiel qui soit de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et nous ne sommes même pas certains de la définition de l'Évangile. Et ce faisant, l'Église est devenue de plus en plus superficielle. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles est la prolifération des Églises qui a lieu un peu partout. Franchement, des Églises dirigées par des hommes qui manquent de qualifications et de formation et qui n'ont pas l'arrière-plan théologique requis pour donner une définition biblique et profonde des choses. L'autre raison est le fait qu'il y ait cette préoccupation de ménager les susceptibilités des uns et des autres, de rendre l'Église attrayante et divertissante. Nous fabriquons ainsi une espèce d'évangile synthétique qui ne renferme pas suffisamment de vérité pour sauver qui que ce soit. Tout cela est assez grave, et nous avons tenté d'aborder cela. Il y a toutefois une nouvelle vague dans le monde évangélique, qui est au moins tout aussi effrayante, sinon plus, et la nouvelle vague du milieu évangélique est celle-ci. il y a des gens qui nous disent que cela ne vaut même pas la peine de porter l'Évangile aux extrémités de la terre. Ce n'est pas nécessaire. Les gens sont sauvés sans cela. Sans cela. Maintenant, ce point de vue comporte quelques étiquettes. Permettez-moi de vous donner un petit enseignement à ce niveau. C'est un cours de théologie de quelques minutes. Je sais que vous pouvez le comprendre. Si je peux le comprendre, c'est que vous pouvez vous aussi le comprendre. Comment appelle-t-on cela? Cette idée selon laquelle quelqu'un pourrait parvenir au salut. Quelqu'un peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut aller au ciel sans l'Évangile. Voici un nom. La théologie naturelle. C'est-à-dire que l'homme peut naturellement s'élever à une connaissance de Dieu, peut s'élever à une relation avec Dieu, peut s'élever grâce à sa raison et à son désir inné de faire ce qui est juste pour se conformer à la volonté de Dieu. C'est naturel, par opposition au surnaturel. La théologie surnaturelle affirme que Dieu doit descendre et sauver l'homme. La théologie naturelle stipule que l'homme peut monter jusqu'à Dieu. Cela revient à dire qu'il peut s'approcher de Dieu sur le plan naturel. C'est-à-dire que l'être humain est doté d'un processus de raisonnement naturel et de pouvoir lui permettant d'aller à Dieu pour être sauvé, sans passer par l'Écriture. Ceux qui défendent ce point de vue disent que l'humain est capable de découvrir l'existence de Dieu. Il a la capacité de découvrir les attributs de Dieu. Il peut découvrir la nature de Dieu grâce à un raisonnement humain, distant de la révélation scripturale. L'homme est capable de connaître Dieu, connaître la vérité au sujet de Dieu, et connaître la volonté de Dieu sans l'aide de la Bible. Sa raison est suffisante. Maintenant, bien évidemment, pour croire cela, on n'a pas besoin d'une vision réformée de la dépravation. Il faudra croire que l'homme n'est pas seulement doté d'une capacité de raisonnement innée, mais également d'une bonté innée pour poursuivre cela, pour rechercher la justice. Ainsi, les gens qui préconisent cette idée ont une vision erronée de la dépravation humaine. Ce qu'ils défendent, cependant, c'est que l'homme est capable d'aller au paradis sans la Bible. Il peut entrer au ciel sans l'Évangile. S'il en est ainsi, alors à quoi sert tout ce tapage au sujet des missionnaires? On n'a pas besoin de se repentir devant Dieu, ni d'avoir foi en notre Seigneur Jésus-Christ, comme Paul a dit qu'il devait prêcher dans Actes 20. Les perdus n'ont pas besoin d'entendre l'Évangile. Ils n'ont pas besoin de Bible. Nous n'avons pas besoin de tout ce travail de traduction. Nous n'avons pas besoin de tous ces gens qui sacrifient leur vie dans des coins reculés, au milieu de petites tribus, pour tenter de leur apporter la Bible et la parole de Dieu et l'Évangile qui sauve, puisqu'ils sont capables de parvenir au salut sans tout ça. Il y a de cela quelques semaines, j'ai cité un passage du Los Angeles Times, qui a été repris par le pape le 9 décembre, juste pour vous montrer que l'Église catholique croit cela. Cette semaine, le pape Jean-Paul II a déclaré que tous ceux qui mènent une vie juste seront sauvés, même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ et en l'Église catholique romaine. Le pape est allé plus loin en déclarant « L'Évangile nous enseigne que ceux qui vivent conformément aux béatitudes, les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui supportent les souffrances de la vie avec amour, entreront dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Le pape adopte une vision inclusive du salut. L'enseignement biblique selon lequel le salut ne vient qu'en réponse à la foi en Jésus-Christ est rejeté comme étant déraisonnable et cruel par ceux qui le croient. Les païens sont sauvés s'ils se contentent de mener de bonnes vies, s'ils sont seulement pauvres en esprit et s'ils recherchent ce qui est juste, s'ils mènent de bonnes vies et se montrent sincères, peu importe ce qu'ils croient véritablement. C'est pour cette raison que l'apologiste catholique Peter Kraft, qui a écrit le livre intitulé « Le djihad écuménique » est capable d'affirmer qu'il y a des bouddhistes, des hindous, des confucianistes, des musulmans, des athées et des juifs orthodoxes qui sont tous au ciel. Étant donné que le point essentiel n'est pas le Christ, que l'Évangile n'est pas la question, la Bible non plus, mais ce qui importe est la sincérité et la bonté. C'est la conception de la théologie naturelle, selon laquelle l'homme, par sa capacité naturelle, ses capacités à raisonner et une certaine bonté innée, peut accéder à la connaissance de Dieu et à la volonté de Dieu, et être agréable à Dieu et gagner le salut, quand bien même il n'aurait jamais vu une Bible ou n'aurait jamais entendu parler de Jésus-Christ. Le pape se contentant d'affirmer ce que la théologie catholique croit depuis longtemps. Ceci est en quelque sorte motivé par une certaine conception humaine de l'équité. Ce n'est pas juste d'une certaine manière que quelqu'un, quelque part, ne puisse pas être sauvé, alors qu'il n'a pas un accès immédiat à l'Évangile. Il ne s'agit cependant pas seulement de la position de l'Église catholique. et je vais réitérer quelque chose que je vous ai lu il y a quelques semaines, parce que j'aimerais que ce soit sur la cassette. Une interview a eu lieu entre Robert Schuller et le docteur Billy Graham sur l'heure du pouvoir. Je suis en possession de la transcription de cette conversation. Elle s'est déroulée ainsi. Le docteur Schuller a dit « Dites-moi, quel est l'avenir du christianisme ?» Le docteur Graham a dit « Je pense qu'il y a le corps du Christ, qui est constitué de tous les groupes chrétiens du monde entier, et ceux extérieurs aux groupes chrétiens. Je pense que toute personne qui aime Christ, ou qui connaît Christ, qu'elle en soit consciente ou pas, est un membre du corps du Christ. Et je ne pense pas que nous allons assister à un grand réveil, qui tournera le monde entier vers Christ, à un quelconque moment. » Ce qu'il dit en d'autres termes, c'est qu'il y a au sein du corps du Christ des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent tous à Christ, mais ils viendront par d'autres chemins. Par ailleurs, il dit, le dessein de Dieu à cette époque consiste à susciter un peuple pour son nom, qu'il vienne du monde musulman ou du monde bouddhiste, ou du milieu chrétien, ou encore du milieu non-croyant. Ils font partie du corps de Christ parce qu'ils ont été appelés par Dieu. Ils pourraient même ne pas connaître le nom de Jésus. Ils savent cependant dans leur cœur qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas, et se tournent vers la seule lumière dont ils disposent. Et je crois qu'ils sont sauvés, et qu'ils seront avec nous au ciel. Le docteur Schuller a répondu, « Ce que je vous entends dire, c'est qu'il est possible que Jésus vienne dans un cœur, une âme et une vie humaine, même s'ils sont nés dans les ténèbres, et n'ont jamais entendu, et n'ont jamais été exposés à la Bible. » Est-ce une bonne interprétation de ce que vous êtes en train de dire ? Le docteur Graham répondit, « Oui, c'est parce que je le crois. J'ai rencontré des gens dans plusieurs parties du monde, dans des situations tribales. Ils n'ont encore jamais vu de Bible, ou même entendu parler de la Bible, n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ont cependant cru dans leur cœur qu'il existe un Dieu, et ils ont essayé de mener une vie qui était complètement différente de la communauté dans laquelle ils vivaient. » Le docteur Schuller dit, « C'est formidable. Je suis tellement heureux de vous entendre dire cela. Il y a de la largeur dans la miséricorde divine. » Le docteur Graham répondit, « Il y en a. Il y en a certainement. Ceci a certainement fait un saut pour passer d'Aristote à l'Église catholique et dans le protestantisme évangélique. Nous avons à présent une sorte de point de vue protestant qui dit que les musulmans, les hindous et tous les autres vont certainement être dans le corps du Christ, dans le royaume, au ciel et seront sauvés. Qu'il n'ait jamais tenu une Bible, ou qu'il n'ait jamais entendu l'Évangile, ou qu'il n'ait jamais appris quoi que ce soit au sujet de Jésus-Christ. » La Fondation Billy Graham a affirmé que cette position était la même que celle énoncée dans l'article qui se trouve dans le magazine Décision, que Billy Graham a écrit en 1960. Ce n'est donc rien de nouveau. À présent, ceci nous introduit dans une espèce de facette évangélique. Et il y a un terme employé aujourd'hui pour décrire cela. Cela se nomme la vision d'une miséricorde plus grande, qui est un peu plus facile à accepter que la vision de la théologie naturelle. L'idée que l'homme, dans sa condition dépravée, puisse trouver Dieu, trouver la volonté de Dieu, mener une vie juste et plaire à Dieu, et, c'est impossible, approuvé par l'Écriture. Ainsi, plutôt que de se positionner comme théologien naturel, il vaut mieux être un théologien surnaturel, et pouvoir ainsi sortir un autre titre, une vue plus large de la miséricorde, c'est-à-dire qu'il y a cette latitude plus ample, plus large, il y a cette vision inclusive, selon laquelle le Seigneur va intégrer tout le monde, et c'est ce qui est dit en essence, c'est que les gens peuvent être sauvés dans n'importe quelle religion. Quand j'étais étudiant au séminaire, Clark Pinnock a écrit un livre intitulé « Présenter ton cas », ce qui était vraiment une belle œuvre apologétique, un livre d'évidentialisme chrétien. Vous savez, c'était un grand champion de la foi chrétienne. Il s'en est cependant éloigné depuis et y a renoncé publiquement, au point où il est maintenant probablement le principal promoteur de cette vision plus large de la miséricorde. Et je citerai, il dit ceci, « Lorsque nous approchons l'homme d'une foi autre que la nôtre, quelqu'un d'une autre religion, ce sera dans un esprit d'attente, pour découvrir comment Dieu a pris l'habitude de lui parler. » Et de quelle nouvelle compréhension de la grâce et de l'amour de Dieu nous pourrions nous-mêmes découvrir dans cette rencontre. Notre premier rôle, en abordant un autre peuple, une autre culture, une autre religion, consiste à ôter nos chaussures. Le lieu sur lequel nous sommes, sur le point de nous tenir, est saint. Autrement, nous risquerions de fouler les rêves des hommes aux pieds. Pire, nous pourrions oublier que Dieu était déjà là avant notre arrivée. À présent, cela redéfinit la mission de manière très significative. Au lieu d'aller vers une tribu en se disant « Ces gens sont perdus, ces gens sont condamnés dans les ténèbres », on s'y rend et on se dit qu'on se tient sur une terre sainte, parce que Dieu était déjà là sous la forme de leur paganisme. Pinocque ajoute « Dieu accomplit davantage de choses par rapport à la rédemption que ce qui s'est produit en Palestine au premier siècle ». Fin de citation. Je ne puis imaginer une croyance plus désastreuse que celle-ci. Dieu accomplit présentement beaucoup plus de choses dans le domaine de la rédemption que ce qui s'est produit en Palestine au premier siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire que la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'étaient qu'une chose parmi tant d'autres, et non pas l'unique plus grand événement de toute l'histoire de la rédemption. Cela dénigre Christ, cela dévalorise son incarnation, sa naissance virginale, son incarnation, sa vie sans péché, sa mort substitutive, sa résurrection corporelle, son ascension, son intercession, la seconde venue, tout, si le Christ n'est qu'un parmi tant d'autres. C'est une régurgitation d'une vieille hérésie grecque dont l'apôtre Jean a parlé et qui était appelée le Logos universel, où l'esprit du Christ flotte dans l'air, s'injectant dans chaque religion. Cela s'attaque également à la Trinité, car seul le christianisme biblique affirme que Dieu est une Trinité. Même les Mormons renient cela. Vous dites, c'est confus. Eh bien oui, je pense que je sais ce que vous pensez. Non pas parce que je serai omniscient, mais parce que vous pensez probablement comme moi. Et ce que vous pensez, c'est comment est-ce possible que les gens croient cela? Comment peuvent-ils croire cela? Alors que la Bible affirme que le salut ne se trouve qu'en Christ, n'est-ce pas? Jean 14, verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Très clair, acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Nous le savons, Jésus dit en Jean 8, « Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Croire en Jésus, pour quiconque lit le Nouveau Testament, est le seul moyen de parvenir au salut. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a qu'un médiateur, dit Paul dans Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, uniquement un médiateur. Comment réagissent-ils à cela? Certaines de ces personnes parlent de Jésus chaque fois qu'elles sont à la télévision, chaque fois qu'elles se lèvent et prennent la parole. De quoi parlent-elles? Que disent-elles? Pour dire que Jésus est le seul sauveur? Jésus est le seul sauveur, et ensuite dire cela aux musulmans et aux bouddhistes et aux animistes et à tout le monde, pour que tous ces gens-là appartiennent au corps du Christ, qu'ils fassent partie du royaume, qu'ils viennent au ciel. Comment est-ce que cela marche? Et voici la réponse. Vous pouvez la trouver dans les écrits des gens comme Clark Pinocke et Sanders, et d'autres qui ont écrit sur le sujet. Voici ce qu'ils disent. Ils affirment que l'œuvre du Christ constitue la seule base du salut, mais qu'il n'est pas nécessaire de la connaître. Autrement dit, quelle que soit votre religion, si vous croyez en Dieu, peu importe comment vous imaginez Dieu, et si vous essayez de faire ce qui est juste, et essayez de faire ce qui est bien et religieux, vous serez sauvés par Christ, même si vous ignorez qui il est. Vous ne saviez pas que Dieu était une trinité. Vous ne saviez pas que Dieu s'était révélé en Christ. Vous ne saviez pas que Christ a vécu, qu'il est mort et ressuscité. Vous ne savez rien à ce sujet, mais Christ sera malgré tout votre sauveur. Il aura de toute façon payé le prix de vos péchés. Ils disent qu'il est le seul sauveur, mais il a expié et payé le prix des péchés des gens qui n'apprendront jamais rien au sujet de la Bible et ne sauront jamais rien au sujet de Jésus-Christ. Ils bénéficieront directement, malgré tout, de son œuvre sur la croix, sans même le savoir. Mère Teresa était très attachée à sa foi catholique. Ma famille et moi sommes allés lui rendre visite lorsque nous étions à Calcutta. Nous lui avons offert une copie du livre « L'Évangile selon Jésus ». Et c'était une expérience intéressante. C'est une femme très gracieuse, très forte, une aimable petite femme de 4 pieds de haut. Et les enfants avaient envie de lui offrir ce livre. Et ils l'ont fait, et elle a dit qu'elle allait le lire. Cependant, Mère Teresa était très très fidèle à sa foi catholique. Elle était une catholique très authentique. Elle comprenait très bien le catholicisme. Sur la première page d'une Bible sur laquelle elle a posé son autographe, elle a écrit « Puissiez-vous entrer dans le cœur de Jésus, à travers la Vierge Marie ?» Et elle a signé son nom. Elle croyait donc que le salut passait par Marie, et cela est propre à la foi catholique. Une autre chose qui était vraie de la foi catholique était « Nous sommes entrés dans sa maison pour les malades et ceux qui sont en fin de vie. » Et sur les murs, il y avait des dieux hindous, des images des dieux hindous. Vous savez, ces dieux bizarres, aux mains multiples, et des divinités hindoues, sur les murs d'un établissement catholique. Au fait, c'était adjacent à, immédiatement adjacent, au temple le plus vil et le plus déviant que je n'ai jamais vu de ma vie, nulle part ailleurs au monde. Le temple de Calcutta, le temple hindou, où des sacrifices de sang sont faits régulièrement, des sacrifices qui peuvent être aussi grands qu'un bœuf. Il y a là une adoration que je ne pourrais même pas me permettre de décrire en public, tellement c'est déviant. Cependant, ils sont situés côte à côte. À l'époque, je ne pense pas que je comprenais vraiment tout ce que je comprends aujourd'hui. Je me suis demandé comment elle faisait pour avoir des images des dieux hindous à l'intérieur de sa maison. Des images qui étaient en lien avec cet endroit déviant tout à côté. J'ai simplement supposé qu'il s'agissait d'être politiquement correct, à savoir que pour survivre dans la ville de Calcutta, il fallait faire preuve de déférence à l'égard des dirigeants de la nation indienne. Et c'est ce qui était fait. Plus tard, je suis parvenu à comprendre que cela faisait en fait partie de leur système, une partie intégrante de leur système. Et je vais vous dire comment cela fonctionne. Un écrivain du nom de Raimondo Panikkar a écrit un livre intitulé « Le Christ inconnu de l'hindouisme ». N'est-ce pas un titre intéressant ?« Le Christ inconnu de l'hindouisme ». Voici ce qu'il dit, je cite « Le bon et l'authentique hindou est sauvé par Christ, et non pas par l'hindouisme. Cependant, c'est à travers les sacrements de l'hindouisme, grâce au message de la moralité et d'une bonne vie, à travers le mysticisme qui est descendu sur lui, grâce à l'hindouisme, que Christ sauve la personne hindoue. » Fin de citation. Tout le monde dedans. Les bons hindous. Les bons bouddhistes. Les bons n'importe quoi. Bon, vous savez, les gens que vous voyez sur la chaîne de télévision Discovery et qui courent avec des lances et des os qui transpercent leurs lèvres. Tout le monde entrera, s'il est bon. Vous comprenez à quel point c'est incroyable qu'une telle chose ait pu être introduite dans l'évangélisme, n'est-ce pas? Vous pourriez vous accommoder à cela si c'était sorti du séminaire de l'Union à New York, ou si cela sortait d'une dénomination libérale qui avait déjà prôné l'homosexualité au sein de son clergé, ou quelque chose de ce genre. Mais entendre le genre de personnes qui affirment cela et le genre de personnes qui, comme je l'ai déjà mentionné avant, soutiennent le livre de Peter Kreft et J. E. Packer, qui ont dit « Et s'ils avaient raison ?» Et dans le livre, voici toute la thèse de Peter Kreft, présente dans son livre « Le djihad évangélique » ou « Écuménique ». Vous demandez, comment est-ce possible que cela pénètre le cercle évangélique? Comment avons-nous pu succomber à cela? Comment avons-nous pu adhérer à cela? Comment est-ce possible que des pasteurs disent « Ah, la réforme ne compte pas vraiment, et peut-être que nous devons redéfinir complètement la mission à travers le monde. » Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Eh bien, tout cela pour dire que nous avons un problème majeur. Comme vous savez, je m'adresse pas seulement à vous, mais le Seigneur m'a accordé l'occasion de m'adresser à beaucoup plus de personnes, autres que vous, étant donné que Grace to You est près de 2000 fois par jour écoutée par beaucoup de gens en anglais, et je crois 500 fois par jour maintenant en espagnol. Lorsque nous avons quelque chose à dire au monde évangélique, nous parvenons généralement à obtenir une plateforme pour le faire. Et vous savez que le moyen de régler cela consiste tout simplement à aller dans les Écritures, n'est-ce pas? Je veux dire que je ne vais pas vous donner mon opinion. Mon point de vue ne vaut rien du tout. Eh bien, qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet? Avons-nous un cas biblique pour justifier l'exclusivisme? Avons-nous un cas de jurisprudence pour soutenir le fait que si vous ne connaissez pas l'Évangile et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'allez pas au ciel? La réponse à cela est oui. Et nous avons un cas biblique pour affirmer que la théologie naturelle n'amènera personne nulle part. Et nous avons également un cas biblique pour prouver que la miséricorde divine est extrêmement étroite. En fait, si vous recherchez le terme étroit, vous le trouverez dans Matthieu 7. C'est une. Quel genre de porte? Une porte étroite. Il s'agit donc d'une miséricorde étroite et d'une théologie surnaturelle. Et c'est ce que je veux vous démontrer à partir de l'Écriture. Où allons-nous commencer? Eh bien, nous commencerons par une référence générale. Alors, contentez-vous de vous asseoir là. N'ouvrez pas encore votre Bible. Contentez-vous d'écouter pendant une minute. Il s'agit d'une référence générale à Genèse 3. Mais je ne veux pas que vous vous y rendiez. parce que vous risqueriez de chercher des versets, et je ne vais pas donner de référence. Je ne le ferai que de manière générale. Genèse 3. Vous savez ce qui s'est passé en Genèse 3, n'est-ce pas? Genèse 1 et 2, c'est la création. Genèse 3, c'est la chute de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu, et ensuite Dieu lui a créé une partenaire, Ève. Nous avons donc Adam et Ève, et ils sont dans une condition de perfection. Ils ont des corps parfaits, des esprits parfaits. Par conséquent, ils ont un raisonnement parfait, d'accord? Ils évoluent dans un environnement parfait, qui n'est pas du tout biaisé, et ils ont une relation parfaite avec le Créateur. C'est donc la perfection, d'accord? Nous sommes dans le jardin, dans un environnement parfait. Ils avaient des esprits parfaits, capables d'une compréhension parfaite, capables d'un raisonnement parfait, capables de tirer des conclusions parfaites. Et cependant, Adam et Ève, dans l'état de perfection, n'étaient pas capables de comprendre, de même, pourquoi ils avaient été créés. Ils pouvaient comprendre qu'ils avaient été créés. Ils étaient en mesure de comprendre que quelque chose de plus puissant qu'eux les avait créés, que quelque chose doté d'une pensée immense, un certain être qui aimait la beauté, aimait l'ordre, aimait la conception, et qui avait du pouvoir, et avait donné la vie et tout cela. Mais ils n'étaient pas capables de savoir pourquoi ils avaient été créés. Ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire, comment ils devaient le faire, sauf si quelqu'un le leur disait. Ils n'auraient pas su comment répondre à leur environnement, comment opérer dans le jardin. Dieu leur a donc dit, « Vous pouvez tout manger, sinon ils ne l'auraient pas su. » Et il a dit, « Ne mangez pas cela. Si vous le faites, vous mourrez. » Et il a dit, « Voici ton épouse, ayez des enfants. » Et il a dit, « Donne des noms aux animaux. » C'est pour cela qu'ils marchaient et parlaient avec Dieu dans le jardin, étant donné que Dieu leur accordait une révélation spéciale sur la manière dont ils devaient interagir avec lui et comment ils devaient interagir avec leur monde. Les théologiens naturels devraient être choqués de découvrir qu'Adam ne pouvait pas connaître la vérité divine par sa raison parfaite. Il n'en était pas capable, par sa propre raison, malgré son intellect parfait. Il n'aurait pas été capable de parvenir à savoir qu'il ne devait pas manger ci ou ne pas manger ça, qu'il devait nommer les animaux, etc., etc. Il devait s'occuper du jardin. Dieu a dû lui dire tout cela. Robert Morey dit, « Adam n'a pas été créé pour être l'origine de la vérité, la justice, la morale, la signification et la beauté. Le Créateur marchait avec l'homme dans le jardin. Ces sessions journalières constituaient une révélation spéciale, et Dieu a dit à l'homme pourquoi il l'avait créé et ce qu'il devait faire dans le jardin. Il a révélé à l'homme ce qu'il pouvait ou ne pouvait manger. En d'autres termes, Dieu était l'origine et la source de la vérité, la justice, la moralité, le sens et la beauté, tandis que la responsabilité de l'homme était de recevoir ce que Dieu avait révélé. L'homme n'était pas l'origine, mais plutôt le récepteur de la vérité. Et c'est vrai qu'Adam et Ève seraient parvenus à connaître un certain nombre de choses au sujet de Dieu, mais ils n'auraient pas pu savoir ce que Dieu attendait d'eux s'il ne le leur avait pas dit. Nous ne comprendrions même pas la condition de l'homme avant la chute. Nous ne comprendrions pas sa condition déchue s'il n'y avait eu Genèse 1, 2 et 3. Savez-vous que vous pouvez étudier les religions du monde, les philosophes du monde, les théologiens du monde, mais aucun d'entre eux ne propose jamais une compréhension correcte de la création de l'homme et de la dépravation humaine. Aucun. Ils ne le font jamais, parce qu'on ne peut y accéder avec un raisonnement dépravé. Et souvenez-vous de ceci. Lorsque Satan est arrivé au jardin, l'homme parfait, doté d'un esprit parfait, d'une compréhension parfaite, d'un raisonnement parfait, dans cette condition, Satan entre en scène, et il veut que Adam et Ève doutent de leur raisonnement. Il leur propose, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Vous ne pouvez pas vous fier à la parole de Dieu. Voyez-vous, ce que Satan veut toujours que nous fassions, c'est douter de la révélation spéciale et faire confiance à notre propre raisonnement. Satan conduit Ève à travers ce petit scénario. Finalement, il dit, « Ah, vous n'allez pas mourir. Vous ne pouvez pas vous fier à Dieu. Dieu ment. Dieu a dit ça, vous allez mourir. Mais non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu. » Il n'aime pas cette concurrence. Satan a tenté l'homme à se fier à sa raison et rejeter la révélation qui vient de la bouche de Dieu. Dieu leur a donné une révélation spéciale. « Vous ne mangerez point. » Satan a dit, « Ne croyez pas ce que Dieu dit. Faites confiance à votre raison. » C'est en essence ce que stipule la théologie naturelle. Ce n'est que le mensonge de Satan dans le jardin, qui se répète encore, encore et encore. vous pouvez y arriver avec votre raison. Ne vous souciez pas de la Bible. Ne vous préoccupez pas de l'Évangile. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez y accéder grâce à votre propre raison. Mais regardez, comment est-ce qu'un homme déchu, dans un monde maudit, peut arriver à trouver la vérité divine par sa raison pervertie, alors que l'homme parfait, qui évoluait dans un monde parfait, n'est pas parvenu à trouver Dieu grâce à sa raison parfaite? Adam ne pouvait pas savoir ce que Dieu voulait, si Dieu ne le lui disait pas, et personne d'autre ne peut savoir ce que Dieu veut, à moins que Dieu ne le lui dise. Et nous sommes dans un état pire que celui d'Adam et Ève, et Satan fait toujours la même chose. Il veut toujours dénigrer la révélation spéciale. Quelle belle stratégie! Convainquons l'Église qu'ils n'ont même pas besoin de prêcher l'Évangile. Dites-moi d'où cela vient. Du ciel. Dites-moi d'où vient cette hérésie. Qui a le plus à gagner à nous faire cesser de prêcher l'Évangile? Eh bien, regardons à Romains 1. J'ai du temps pour deux passages rapides. J'en ai environ 8, et nous les terminerons la prochaine fois. Restez avec moi, cependant, parce que c'est très important, et je vais aller vite ici. Romains 1, versets 18 à 23. Ceci est l'un de ces formidables passages de la Bible qui sont extrêmement décisifs et qui ont de profondes implications. J'aimerais que vous voyiez l'homme. Il s'agit d'une vision de l'homme. C'est une anthropologie biblique. Et il est dit au verset 18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient, comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous allons nous arrêter là. Ce texte est familier pour plusieurs d'entre nous. Permettez-moi maintenant de présenter cela en quelque sorte. La Bible dit ici qu'il existe des preuves de l'existence de Dieu, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Et ça, c'est grâce à la raison. Au verset 20, la raison regarde à la création et déclare « Il doit y avoir un créateur ». La raison regarde à la diversité et dit « Il y a certainement un esprit immense ». Elle regarde au design et déclare « C'est un dieu d'ordre ». Elle regarde à la beauté et dit « C'est un dieu de beauté et d'harmonie et tout cela ». Elle regarde à la vaste variété et dit « Il s'agit d'un dieu, d'un pouvoir et d'une complexité immense ». Oui, cela est vrai. Ainsi, cela est effectivement si vrai et si clair que le pouvoir éternel, que la nature divine sont visibles à travers le regard que la raison pose sur la création. Cela se voit nettement, verset 20. Cela se voit clairement. Il faudrait vraiment commettre un suicide intellectuel pour nier qu'il y a une cause à l'effet de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a un créateur. Ainsi, cela est tout simplement évident, et si clairement visible à la fin du verset 20, que les gens n'ont aucune excuse. Vous n'avez absolument aucune raison d'être un évolutionniste. Absolument aucune. C'est complètement idiot. C'est de l'idiotie. Et il emploie ici le terme pour crétin, traduit par fou ou stupide. Quiconque voit une chose quelconque qui existe, présume que quelqu'un l'a fabriquée. Et l'univers nécessite forcément un créateur. Et dit donc que Dieu a doté l'homme d'une raison. Et la raison regarde à la création, et tire un certain nombre de conclusions sur le pouvoir et la nature du créateur. Et elle n'a aucune excuse. Le problème est celui-ci. Elle ne le conduit pas à Dieu. Impressionnant. Elle ne le conduit pas à Dieu. Elle ne le conduit pas au véritable Dieu. Pourquoi? En revenant au verset 18, on peut lire « Retiennent injustement la vérité captive. L'homme est tellement méchant. Il est si dépravé. Il est tellement vil dans sa nature. Il est si impie que sa dépravation annule toute possibilité pour lui d'aller jusqu'à Dieu grâce à ses capacités naturelles. Bien au contraire. Il étouffe la vérité. Il déshonore le Créateur. Regardez au verset 21. Bien que la connaissance de Dieu en tant que Créateur soit manifeste autour de lui, il ignore les détails en ce qui concerne la volonté de Dieu ou le salut. Mais il peut au moins voir qu'il y a bien un Créateur. Il ne l'honorera pas, cependant en tant que Créateur. Il ne lui sera pas reconnaissant. C'est ce que fait l'homme dépravé. Je veux dire que même Adam l'a fait. déshonorer Dieu en lui désobéissant, se détournant de la révélation spéciale pour suivre sa propre raison humaine dans un acte d'orgueil. Il est cependant dit ici qu'ils n'honorent pas Dieu, ils ne rendent pas grâce à Dieu, ils se détournent de Dieu, ils répriment la vérité, et ce qu'ils inventent, c'est qu'ils deviennent futiles, c'est-à-dire vides dans leurs spéculations. Ils développent des idées stupides qui ne sont pas vraies, comme l'évolution qui constitue un gros mensonge. Ce n'est pas vrai, ou n'importe quelle philosophie humaine, ou toute autre fausse religion. Ils fabriquent des idées humaines vides, qui ne constituent pas la réalité, et leur cœur stupide devient sombre. Il n'y a pas de lumière. Ils ne se retrouvent avec rien de plus qu'une compréhension brouillée. Verset 22. Dans leur égotisme, qui constitue une majeure partie de leur perversion, ils professent être sages, s'octroient des doctorats, et enfilent des robes royales et religieuses, et des coiffes, et défilent comme s'ils étaient de grands hommes sages. Ils sont stupides. Ils sont crétins en grec. Ils sont ridicules. En fait, ça ne s'arrête pas là. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils fabriquent des dieux à partir d'autres objets. C'est à cela qu'ils sont réduits. À adorer des insectes, adorer des hommes, adorer n'importe quoi. C'est là où ils vont. L'homme naturel, c'est ainsi qu'il fonctionne. Oh, bien sûr, sa raison dit qu'il doit y avoir un Dieu. Il doit y avoir un Créateur. Il doit être puissant. Il doit être complexe. Mais parce qu'ils sont tellement méchants, parce qu'ils sont tellement pervers, et j'en dirai davantage la semaine prochaine, ils répriment la vérité. Par amour pour le péché, ils étouffent cette vérité. Ils ne peuvent pas s'empêcher de l'éliminer. Ils n'ont aucun accès à Dieu. Ils ne peuvent sortir de leur impasse. Ils sont morts dans leurs transgressions et leurs péchés. Ils ne sont pas vivants par rapport à Dieu. Ils ne sont pas vivants par rapport à la réalité. Dans cet état de mort, la vérité est étouffée. La justice est réprimée. Et à sa place survient la fabrication de faux systèmes religieux et de stupides philosophies vides. Et au bout de tout cela, quel est le mot de la fin? Quelle est la finalité de la philosophie humaine et de la religion humaine? Vous dites la grâce de Dieu? Non, pas du tout. Verset 18. Qu'est-ce qui est dit? Car la colère de Dieu, c'est le point principal dans ce passage. Ce que nous disent ces versets, c'est que l'homme naturel, avec sa théologie naturelle, sans l'aide d'une révélation spéciale, terminera inexcusablement sous le jugement divin. C'est la colère de Dieu. Il ne s'agit pas de la grâce de Dieu. On ne peut pas aller vers une tribu qui adore un alligator ou quelque chose et dire « Oh, je suis sur un lieu saint. Dieu était déjà là avant mon arrivée. Dieu n'y était pas. Dieu n'y est pas. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est un refus d'honorer le Dieu véritable et vivant, le Dieu incorruptible, et de greffer autre chose à sa place, de fabriquer autre chose, une philosophie vide, une religion stupide ou une idole. C'est donc ainsi que fonctionne l'homme naturel. Romains 1 constitue le diagnostic de l'homme naturel. Il devient religieux cependant. Sa religion est descendante et non ascendante. Elle ne constitue pas une ascension vers Dieu. Elle descend de la première reconnaissance de Dieu en tant que créateur de l'univers, jusqu'à un faux Dieu, fabriqué par leur propre imagination, dans l'élimination de la vérité et l'amour de leur propre méchanceté. Et ce qui arrive, c'est qu'ils ne finissent pas avec la grâce de Dieu. Ils ne se retrouvent pas dans le corps du Christ, par on ne sait quel étirement de l'imagination. Ils terminent sous la colère de Dieu, la colère du Dieu Tout-Puissant. C'est le jugement, le jugement. Un autre passage que j'aimerais vous montrer. 1 Corinthiens 1, parce qu'il est en partenariat avec celui-ci. Et juste un bref aperçu de celui-ci. 1 Corinthiens, chapitre 1. Ce que nous avons vu dans Romains 1, c'est que lorsqu'il atteint son plus haut niveau d'orgueil religieux, l'homme est un crétin. Il est un idiot sous la colère. Peu importe si sa religion constitue de l'animisme sophistiqué, ou alors un genre de religion occidentale très sophistiqué, ou une espèce de religion orientale, il finit au même endroit. C'est un fou qui pense être sage. Mais allons au-delà. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est quoi? Une folie pour ceux qui périssent. Voyez-vous, ces fous pensent que ce que nous prêchons, c'est de la folie. Ils pensent que la croix constitue une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et voici un autre jugement, et c'est un verset qui est tiré d'Ésaïe, chapitre 29, et verset 14. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Les deux termes « périra » et « disparaîtra » font allusion à une sorte de jugement final, une exécution. Dieu dit « Allez-y, alignez les plus sages des sages, alignez les plus intelligents, et je les écarterai. » Encore une fois, ce qui arrive aux gens qui parviennent à la sagesse religieuse, qui atteignent un haut niveau de compréhension rationnelle de Dieu et des choses spirituelles. Ce qui arrive, c'est que Dieu les écarte. C'est la même chose que la colère dont il est question dans Romains 1, verset 18. Il est question ici de destruction et de disqualification, de réduire au néant. Et ensuite, le verset 20 déclare « Où est le sage ?» C'est pratiquement du sarcasme. Ensuite, « Où est le scribe ?» Celui qui passe sa vie entière à écrire fastidieusement des choses religieuses. Où est le disputeur de ce siècle? Celui qui est capable de se lever et de débattre de sa philosophie et de sa théologie. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Prenez le plus sage des sages. Prenez la sagesse du monde. Prenez l'élite des dirigeants religieux. Prenez les personnes des échelons les plus élevés de leur religion. Qu'il s'agisse du pape, ou qu'il soit question des leaders de l'hindouisme, ou qu'il s'agisse du monde musulman, ou alors qu'on parle des apôtres de l'église mormon, ou quel que soit ce dont il est question, prenez-les tous, tous ceux qui ont atteint la quintessence des mécanismes religieux développés par l'homme, les mages, les scribes, les grands écrivains et théologiens, les débatteurs, ceux qui sont capables d'argumenter pour défendre leur point de vue et avoir raison. Toutes ces personnes, Dieu les convaincra toutes de folie, ils ne recevront pas la grâce. Comprenez-vous où je veux en venir? Ils seront écartés, et la raison se trouve au verset 21. Voici la clé. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, notez cela, soulignez-le. Vous ne pouvez pas arriver là-bas, en partant d'ici. Le meilleur du monde, le monde à son plus haut niveau d'accomplissement religieux et d'accomplissement intellectuel, le monde à son niveau le plus sage, ne peut parvenir à connaître Dieu. C'est ce qui est dit. Il ne peut pas y arriver. Et ensuite, la fin du verset 21. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un message qui paraît annoncer une folie. Quel message? L'Évangile. Le message renvoie au message de la croix mentionné au verset 18. Le seul moyen par lequel on parviendra au salut consistera à croire le message de la croix. C'est le seul moyen. Cela faisait partie du plan de Dieu que le monde ne puisse pas venir à le connaître à travers sa propre sagesse. Je vais le redire, vous ne pouvez pas accéder à la connaissance de Dieu en partant d'ici grâce à votre propre sagesse, votre rationalité, votre religiosité, votre philosophie. Mais il a plu à Dieu à travers la folie du message, le message de la croix, Christ, sa mort, sa résurrection, de sauver ceux qui croient, qui croient. Il ne s'agit pas de croire en n'importe quoi, mais plutôt de croire cela. Et l'évangile de la croix n'est pas un produit du raisonnement humain, il s'agit d'une révélation. C'est une révélation. Où pouvez-vous trouver la révélation de la croix? Tout simplement ici. N'est-ce pas ce qu'il explique? Oh, Satan aime bien se rendre au jardin de nos jours et attirer les gens en disant « Vous ne pensez pas sérieusement que vous devriez croire ce que dit la révélation spéciale qui vient de Dieu? Faites confiance à votre propre raisonnement. Fiez-vous à votre propre raison. C'est ce que font ces théologiens. Ils se contentent de suivre Satan. Seul le message de la croix peut sauver. Tout le reste est moria, stupide. » Jérémie 8, verset 9 déclare « Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Vous rejetez la parole révélée de Dieu. Vous rejetez la révélation spéciale. Vous rejetez la parole du Seigneur. Et quel genre de sagesse avez-vous? Eh bien, Jacques répond à la question. Jacques 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Plutôt directe, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement faux, ce n'est pas seulement stupide, c'est démoniaque. Écoutez, si cela ne vient pas d'en haut, alors ça vient d'en bas. Et c'est pour cela que Paul dit plus bas, au chapitre 2, le verset 1, « Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je ne suis pas venu avec des idées ou un raisonnement humain. » Verset 2. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que quoi? Jésus-Christ. Il a dit, c'est tout ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que c'est le seul message qui fait quoi? Qui sauve? C'est le seul message qu'il faut prêcher, parce que c'est le seul chemin qui mène au salut. Lorsque je vous ai apporté le témoignage de Dieu, lorsque je vous ai dévoilé le mystère de Dieu, ce qui avait été caché et ce qui est à présent révélé, lorsque je vous ai porté la parole de Dieu. Il ne s'agissait que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, car ce n'est qu'en y croyant qu'il a plu à Dieu de sauver. Où sont donc les sages? Nulle part. Où sont les scribes? Complètement introuvables. Je suis en train de lire un livre intitulé « Mormon America ». Je dois être quelque part au milieu. C'est un livre de 400 ou 500 pages. Il s'agit d'une opération tellement complexe, des milliards de dollars, des gens qui vont et viennent dans cette complexité de choses, des fous, du début à la fin. Vous savez, ils ont bien entendu atteint tout genre de hauteur. Ezra, Taft, Benson, des gens comme celui-là, d'autres sénateurs qui nous sont familiers aujourd'hui, des personnes en position d'autorité, qui ont été dans des cabinets présidentiels. Ils disposent de systèmes d'organisation complexes au sein de leur religion, mais aussi sur le plan institutionnel, et c'est un énorme, un grand château de cartes sur lequel Dieu soufflera un jour. Cela ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Ce sera détruit. Ils ne ressentiront rien de plus que de la colère. Vous ne pourrez pas accéder à Dieu en passant par votre propre système. Si vous rejetez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas y arriver. Et vous n'y arriverez jamais tant que vous n'aurez pas écouté le message. C'est pour cette raison que nous prêchons depuis toutes ces années. C'est pour cela que depuis 2000 ans, les gens vont aux extrémités de la terre avec un message du Christ, parce que nous savons que c'est ce que la Bible enseigne. L'homme naturel, laissé à lui-même, finit sous la colère de Dieu. Il termine, comme le dit 1 Corinthiens, sous la destruction. Il n'est rien de plus qu'un fou. Et prenez le plus sage des sages. Il dit au verset 19, « Et prenez le plus intelligent des intelligents, et je les éliminerai tous. Cela ne vous amène pas au ciel. » Ainsi, personne, par la raison naturelle, par une intuition religieuse, ne peut parvenir à connaître la vérité de Dieu. Le seul moyen par lequel vous parviendrez à connaître la vérité salvatrice de Dieu est par la révélation spéciale, et c'est la Bible et l'Évangile de Jésus-Christ. Quiconque affirme que les gens sont sauvés par l'hindouisme ou par n'importe quelle autre religion, quiconque affirme que les gens font partie du corps de Christ et sont chrétiens, et sont dans le royaume et vont au ciel alors qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ne vous dit pas la vérité. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Je terminerai donc ceci la semaine prochaine. Seigneur, nous avons été à nouveau sensibilisés, malheureusement, au sujet de ce qui brise certainement ton cœur, étant donné que cela brise le nôtre. Comme tu dois ressentir plus profondément la douleur du déshonneur. Cependant, Seigneur, nous voulons seulement remettre les pendules à l'heure et nous assurer de nous être acquittés fidèlement de notre responsabilité. Et tu nous as demandé d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile à toutes les créatures. Alors nous voulons être sûrs de comprendre l'Évangile et de continuer à avancer dans cette mission, sans permettre ces mensonges, ces tromperies et ces hérésies d'attaquer ton œuvre glorieuse. Protège ton Église, protège ton peuple, et préserve les hommes fidèles qui prêchent la vérité dans des lieux d'influence. Puisse ton peuple entendre et comprendre la vérité. Accorde-leur le discernement pour qu'ils puissent faire la part des choses. Donne-leur un amour pour ta parole, pour qu'ils aient des critères de discernement. Et aide-nous, Seigneur, à partager fidèlement l'Évangile avec tous ceux qui croisent notre chemin, en sachant qu'il n'y a aucun autre chemin vers le ciel, si ce n'est à travers la foi, en le message de Jésus-Christ et sa croix. Et puissions-nous prêcher la croix comme Paul l'a fait, décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et nous demandons toutes ces choses en son nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.